Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, le Conseil de sécurité condamne les actions de Boko Haram. L'ONU soutient les opérations contre le FDLR en RDC. Le PAM tire la sonnette d'alarme pour le Malawi. La rentrée scolaire au Liberia repoussée suite à l'Ebola. Et la Cour internationale de justice rend son jugement sur le cas entre la Serbie et la Croatie. En dossier, nous revenons sur la situation en Ukraine. Enfin, dans Voix de Femmes, nous recevons la directrice de l'ONG congolaise Femmes Plus. L'ONU se prononce contre Boko Haram. Le Conseil de sécurité a condamné dans les termes les plus forts lundi soir le nombre croissant d'attaques du groupe, y compris les attaques contre la ville de Maïdougouri dans l'état de Borno et celles contre le contingent de l'armée tchadienne chargé de protéger les villages frontaliers camerounais. Selon les 15, le groupe terroriste constitue aujourd'hui l'une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité. Ils ont appelé la région à augmenter les opérations militaires contre Boko Haram. Des propos qu'avait largement évoqué Ban Ki-moon ce week-end à Addis Abeba en se félicitant de la décision de l'Union africaine d'unir leurs forces pour arrêter l'avancement du groupe. Corinne Momal-Vagnan, porte-parole de l'ONU à Genève.
Le Conseil de sécurité a dit que Boko Haram constitue une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité aujourd'hui. Ils ont bien sûr condamné toutes les actions de Boko Haram et vraiment appelé la région à augmenter les opérations militaires contre Boko Haram et la coordination internationale régionale contre Boko Haram. Je peux aussi vous redire que samedi à Addis Abeba, le secrétaire général a accueilli avec satisfaction les efforts régionaux pour combattre Boko Haram. Évidemment, si la situation n'est pas résolue, ces efforts devront peut-être devenir plus importants et prendre une autre dimension. Mais ça, c'est entièrement à la discrétion des États membres.
En RDC, l'armée nationale a annoncé la semaine dernière le début des opérations militaires pour désarmer le groupe rebelle FDLR. Les opérations Sokola 2 viennent de commencer sur le terrain. On n'en voit pas grande trace, a affirmé le chef de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC lundi à Goma, Martin Kobler, qui lors d'une conférence de presse a confirmé qu'il s'était entretenu avec le général Etumba, le chef d'état-major des FRDC, avant le lancement des opérations et expliqué que ces opérations militaires bénéficient du soutien de la MONUSCO. Martin Kobler.
C'est une action qui est gérée par les FRDC, mais soutenue par la MONUSCO sur le plan de la stratégie, de la planification des opérations, mais aussi logistique et opérationnelle. Et nous avons la politique de conditionnalité. On s'y tient seulement les unités qui n'ont pas commis des violations des droits de l'homme pour cette opération Sokola 2. Mais on a tous les commandants des bataillons. On n'a pas de problème de les soutenir. Maintenant, on a quelques problèmes avec la classification ici, mais c'est ce qu'on discute discrètement avec le gouvernement.
Au Malawi, après les inondations des dernières semaines, on annonce des pluies modérées et fortes qui vont venir s'abattre sur des sols saturés et inondés. La situation, loin d'être terminée, va donc s'aggraver et le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Il a décidé d'accroître son assistance pour atteindre 370 000 personnes sinistrées et a déjà fait venir 1530 tonnes de nourriture. La chaîne alimentaire est interrompue, les récoltes ont été dévastées, les ponts et les routes ont été détruites par les flots et le PAM cherche également à apporter un soutien logistique. Elisabeth Beers, porte-parole du PAM.
Nous avons déjà un hélicoptère depuis le 23 janvier dans le pays pour essayer d'atteindre les régions isolées, étant donné que les ponts, les routes sont totalement détruits par les flots et les inondations. Nous espérons avoir un autre hélicoptère sur le terrain et une flotte de 4x4 de gros véhicules, ainsi que des bateaux. Mais tout ça va dépendre des contributions que nous recevons pour pouvoir justement soutenir cet effort logistique.
Au Liberia, le ministère de l'Éducation a reporté la réouverture des écoles au 16 février afin de permettre la finalisation des préparatifs sécuritaires pour la rentrée. Leur réouverture avait été prévue pour le 2 février. L'UNICEF et ses partenaires soutiennent les ministères libériens de l'Éducation et de la Santé pour assurer les meilleures conditions de sécurité possibles pour le retour. Le détail avec Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF à Genève.
équiper chaque école d'équipements de lavage des mains à l'entrée et dans les toilettes de chaque école, s'assurer que la température de chaque enfant et de chaque employé, de chaque enseignant est mesurée chaque jour à l'école, s'assurer que chaque école dispose d'assez d'eau. En moyenne, au Liberia, le standard minimum, c'est de 3 litres d'eau par élève, par jour. S'assurer que chaque école a un espace d'isolation pour les enfants et les employés qui développent des symptômes. Également un système de référence, un centre de santé local.
La Cour internationale de justice a rejeté aujourd'hui la demande de la Croatie et la demande reconventionnelle de la Serbie dans une affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Chaque partie avait accusé l'autre d'avoir commis des actes de génocide pendant le conflit des années 90 qui déchira l'ex-Yougoslavie. Philippe Couvreur, greffier de la Cour, fait la lecture du verdict.
Par ces motifs, la Cour 1. Par 11 voix contre 6, rejette la deuxième exception d'incompétence soulevée par la Serbie et dit que sa compétence pour connaître de la demande de la Croatie s'étend aux faits antérieurs au 27 avril 1992. 2. Par 15 voix contre 2, rejette la demande de la Croatie. 3. À l'unanimité, rejette la demande conventionnelle de la Serbie.
À noter que la CIJ avait reconnu l'existence de l'élément matériel du génocide dans les actes commis entre 1991 et 1995 par les forces serbes, puis en 1995 suite à l'opération Tempête menée par les forces croates. Elle a toutefois conclu que l'élément intentionnel de génocide n'était pas présent dans ces actes. À noter que se déroule actuellement la dernière journée d'un forum de la jeunesse à l'ONU. Le monde compte 1,8 milliard de jeunes, soit un quart de la population mondiale. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, les a appelés à s'impliquer dans la définition d'un développement durable et à saisir l'opportunité qui se présente à eux de mettre fin à la pauvreté, lutter contre le changement climatique et combattre l'injustice.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec le haut-commissaire aux droits de l'homme. Zeid Raad al-Hussein a exhorté ce mardi toutes les parties en Ukraine à mettre un terme à la dangereuse escalade des combats dans l'est du pays. On décompte à présent plus de 5300 morts et plus de 12 000 blessés depuis avril l'an dernier et la situation risque de devenir catastrophique pour les 5,2 millions de personnes qui vivent dans cette zone de conflit. La situation est également préoccupante en Crimée. Les explications de Gianni Magazzini du Commissariat aux droits de l'homme, au micro de Florence Westergaard.
La situation en Crimée, c'est aussi complexe dans le sens que pour nous, il y a la résolution de l'Assemblée générale sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je pense qu'il y a eu depuis mars 2014 plusieurs développements dans le sens qui n'est pas en ligne avec les éléments clés de cette résolution, y compris l'application de la législation de la Russie, la question de l'impact que tout ça a au niveau des droits économiques, sociaux, du titre, de droit au travail pour les personnes concernées, surtout les Tatars de la Crimée ou bien ce qui auparavant était de l'ethnie ukrainienne. Je pense que tout ça a un impact très important qui a eu comme résultat le fait que plus de 20 000 personnes ont quitté la Crimée et qui se trouvent maintenant dans l'Ukraine. Je pense que ça donne déjà le sens du problème. À part ça, il y a aussi les problèmes vis-à-vis la Crimée, les Tatars de la Crimée, y compris les attaques à la possibilité de l'expression au niveau du langage, mais aussi au niveau de la télévision, au niveau des médias, au niveau de la possibilité de se rassembler et exprimer leur point de vue. Je pense que tout ça, c'est un problème aussi important au niveau du manque de droits de l'homme dans le contexte de la Crimée au moment actuel.
Vous pouvez nous dire, mais pourquoi justement les Tatars de la Crimée sont les plus affectés?
La raison principale, c'est qu'il y a l'application de la loi de la Fédération de la Russie en Crimée à ce moment, comme impact à l'effet que plusieurs journaux ont été fermés, que la liberté d'expression et de réunion négociations concernant surtout les Tatars de la Crimée ont été affectées. Et je pense qu'il y a aussi des détentions arbitraires, des investigations qui n'aboutissent pas à des résultats concrets, le manque de possibilités d'expression et de réunion qui joue un rôle important, surtout vis-à-vis les Tatars de la Crimée. Récemment, il y a aussi eu le fait que, comme on l'a dit aussi dans notre communiqué de presse, que des membres de la sécurité ont pris l'adjoint de la Mejlis, c'est-à-dire le Parlement des Tatars de la Crimée, qui est accusé de plusieurs choses et qui pourrait bien avoir se retrouver en prison pour 10 ans. Je pense que tout ça, ça montre encore plus les problèmes, pas seulement pour les citoyens ordinaires, les criminels de la Tatar ordinaire, mais aussi pour les représentants du peuple de la Crimée.
Voix de femme.
Cette semaine, dans Voix de femme, nous recevons la directrice nationale de la fondation Femmes Plus. Cette ONG congolaise travaille principalement dans les soins et assistance aux personnes vivant avec le VIH, aux familles affectées avec le VIH-SIDA, aux orphelins et enfants vulnérables, ainsi qu'aux survivantes des violences sexuelles. Thérèse Omari est au micro de Kelly Nkut de Radio Okapi.
Femmes Plus a commencé avec, à l'époque il n'y avait pas de traitement. Il y avait la volonté de ces femmes de dévoiler leur état sérologique pour conscientiser les autres. Donc aujourd'hui, Femmes Plus est dans 7 provinces, mais dans le moment le plus fort de Femmes Plus était dans 11 provinces. Et pendant les 20 ans, elle a eu, comme vous pouvez imaginer, faire beaucoup de choses.
Pourquoi 7 provinces et pas les 11 provinces de la RDC?
C'est par rapport aux moyens financiers. Et dans les 7 provinces où elle est, ce sont les provinces où elle a pu avoir un titre immobilier. De plus en plus, il y a la majorité des volontaires. Dans nos bureaux, il y a 3 ou 4 personnes qui essayent de maintenir le bureau, d'être en contact, de faire des activités, des routines qui sont les visites à domicile, les sensibilisations. Mais pour jouer le rôle que de Femmes Plus, il faut plus de moyens.
Depuis 1994 que cette fondation existe, vous êtes à la tête de la fondation depuis l'année passée. Est-ce que vous êtes satisfaite du travail de cette fondation?
Oui, je suis satisfaite du travail de cette fondation parce que en 20 ans, on a y accompagné beaucoup de gens qui nous reconnaissent en cours de route. Non, vous m'avez assisté telle fois. Donc, partout où nous passons, les gens nous reconnaissent comme Femmes Plus. Ça, c'est une reconnaissance morale. Et surtout, notre grande joie, c'est que les gens dont nous avons accompagné et qui étaient mourants, qui ne se reconnaissaient pas, qui avaient perdu leur confiance, aujourd'hui sont des leaders associatifs.
Comment ça se passe? Est-ce que ce sont les gens qui viennent vers vous ou c'est la fondation qui cible certains patients qui sont malades? Comment ça se passe concrètement?
Au début, comme les femmes ont parlé de leur état sérologique à visage découvert, les gens envoyaient la femme vivant avec le VIH-SIDA et on nous référait les gens. Quand un médecin dépistait une femme ou bien une personne, nous envoyait un bon de référence pour dire voilà cette personne, elle est séropositive, accompagnez-la. Il y a d'autres qui viennent d'elles-mêmes. Il y a nous-mêmes qui faisons la sensibilisation, c'est la stratégie avancée. Nous allons vers les sites, nous faisons la sensibilisation, la promotion du dépistage volontaire, parce que c'est la connaissance de son état sérologique qui permet à une personne de venir vers nous. Et quand on fait le dépistage, on l'amène à connaître son état sérologique, on lui propose les solutions. Parce que la personne peut dire, moi je ne veux pas de votre assistance, elle est libre. Et les personnes qui acceptent d'être accompagnées par nous, ils se décident à la fin pour dire, je viens vers vous, et voilà.
Ce contact-là est facile avec les patients. Est-ce qu'ils vous font confiance? Est-ce qu'ils n'ont pas peur que vous puissiez dévoiler leurs secrets ou que vous ne rencontrez pas ces genres de personnes?
Non. Parce que moi, personnellement, certaines personnes que je connais, que je vis à Femmes Plus et que je fréquente dans les quartiers, je ne peux jamais dire. Je ne peux pas. Et c'est ce qui fait le succès de notre travail jusqu'à aujourd'hui.
Les difficultés, vous en rencontrez sûrement?
Oui, les difficultés, nous en racontons beaucoup. Au début, c'était l'attachement. Vous accompagnez les gens, vous nouez des relations presque familiales, amicales et c'était presque tout le jour qu'on allait dans le deuil. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut qu'on professionnalise, on a un peu fait des limites. Donc, on ne participait plus au deuil. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est le moyen d'action. Le VIH n'est plus une priorité comme il a été il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est devenu un problème transversal, un problème de la pauvreté, un problème de développement. Or, le besoin des personnes avec le VIH demeure.
Et c'est avec Thérèse Omari que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.